Bienvenue aux invités qui sont avec nous aujourd'hui. Et je veux remercier l'homme qui a donné la sermonnette aujourd'hui, M. DeSimone, une sermonnette très utile. Ça nous montre qu'il nous faut mettre notre confiance en Dieu et ne pas faire les choses à notre façon. Une très belle sermonnette. Merci de la musique spéciale que nos jeunes gens ont offert. Frères et sœurs, nous lisons dans les journaux les nouvelles mondiales. On les regarde bien sûr à la télévision, mais à la télévision, on n'a pas autant de détails qu'on peut avoir dans les journaux. Alors peut-être vous allez aimer prendre certains journaux, suivre dans certains journaux ou sur Internet. Beaucoup de choses se passent actuellement dans le monde. Je vais en couvrir quelques points maintenant, mais ce monde touche à sa fin. J'ai ici une rubrique de presse où il y a certains commentaires de Mike Adams du journal Natural Newspaper. C'est un éditorialiste très réputé. Il parle de l'apparition et de la propagation d'Ebola et de chikungunya également. Plusieurs centaines de morts maintenant en ce qui concerne Ebola en particulier. Aujourd'hui, je pense, c'est ce matin qu'on a rapatrié du Libéria un Américain qui a la maladie d'Ebola. On l'a amené à Atlanta, tout près d'ici. Donc, ça s'approche de nous. Et vous savez, si quelque chose dérape, la maladie peut s'étendre en Amérique. C'est une maladie mortelle des temps modernes. Et il y a bien sûr cette maladie chikungunya qui s'étend dans différents États. Et il y a plusieurs épidémies qui se répandent. Dieu avait averti que ça allait se produire. Les infections se sont multipliées dernièrement aux États-Unis par 500%. Et une autre coupure de presse ici parle de SARS qui réapparaît, une maladie horrible. En Chine, il y a la réapparition de la peste bubonique et plusieurs villes ont été mises en quarantaine. Au Wisconsin, il y a des invasions d'insectes, invasions très importantes, au point de couvrir à certains endroits presque totalement les voitures. C'est inhabituel. Les choses avancent. Vous savez qu'en ce qui concerne les guerres se multiplient partout sur la face de la Terre, peut-être plus que jamais auparavant dans l'histoire du monde. Il y a une guerre terrible qui se produit actuellement en Irak. Et l'État islamique tue les gens, ces barbares tuent les chrétiens qui ne veulent pas payer un tribut spécial ou qui ne veulent pas se convertir à leur forme d'islamisme. En Iran, les choses deviennent de plus en plus tendues. En Syrie, la guerre se poursuit. Il y a plus de 100 000 victimes maintenant. À Benghazi, une ville très importante. Les terroristes ont pris le contrôle. C'est là que l'ambassadeur des États-Unis a été tué il y a quelque temps. Il y a du sang qui coule un peu partout à travers le monde, en Afrique, entre autres. Dans plusieurs pays d'Afrique, des gens sont enlevés, violés, mutilés. Et en Amérique, nos leaders sont confus. Il y a eu un rapport aujourd'hui, un éditorial par Charles Krauthammer, un éditorialiste très estimé dans le monde. Et il démontre qu'à peu près dans toutes les décisions que nos leaders prennent, ils les prennent de mauvaise façon. On se détourne de nos alliés, on se les met à dos alors qu'on essaie de s'approcher de nos ennemis. Nos leaders ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons ce que Dieu dit, que ce monde s'est détourné de Dieu. Et Dieu retire les bénédictions que nous avions auparavant. Nous aurions dû avoir un leadership chrétien, mais nous ne l'avons pas. Le monde a absolument besoin d'avoir un gouvernement juste. Le monde en a besoin, même s'ils n'en sont pas totalement conscients. Certains, par contre, commencent à en parler. Les gens commencent à dire, on n'a pas la bonne sorte de leadership. Qu'est-ce que nous devrions être en train de faire? Tournez avec moi à Psaume, chapitre 33, s'il vous plaît. Verset 8. Psaume 33, verset 8. « Que toute la terre craigne l'Éternel. » Si le monde entier craignait l'Éternel et avait un respect profond pour ce qu'il dit et qu'il voulait au moins appliquer un peu de ce que Dieu dit, tout serait changé. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. L'Éternel renverse les desseins des nations, verset 10. Madame Clinton, avant ça, occupait un poste important et ses décisions étaient mauvaises. Maintenant, c'est John Kerry qui est secrétaire d'État américain et on prend des décisions qui sont opposées à ce qui est censé. Erreur sur erreur. L'Éternel renverse les desseins des nations. Et Dieu le fait parce que nos dirigeants sont coupés de lui. Ils font la promotion des perversions sexuelles. Ça, ils sont d'accord, ils en font la promotion. Mais en ce qui concerne de bien diriger la nation, ils ne le savent pas et nos nations s'en vont dans l'abîme. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Comme M. Obama a dit il y a quelque temps, il a dit ce que nous étions, les États-Unis autrefois, nous ne le sommes plus maintenant. Au moins là-dessus, il avait raison. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Pourquoi? À cause de nos leaders qui sont devenus faibles. Il y a 30 ans ou 50 ans, rien de ce qui se passe actuellement ne se passait. Il y avait un sens d'unité, un sens de patriotisme. Et s'il y avait eu la perversion sexuelle comme il y a aujourd'hui, les gens auraient été éliminés des villes, auraient été jetés à l'extérieur, pour ainsi dire. Mais maintenant, les gens disent « Ah, oh, c'est formidable, ces choses-là. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Allons maintenant au verset 20. « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. » Notre cœur met en lui sa joie. Pourquoi? Car nous avons confiance en son nom, en son saint nom. Frères et sœurs, si vous réfléchissez à ça et qu'on pense à la sermonnette de M. DeSimone, celui qui ne se confie pas à Dieu et qui ne fait pas confiance au conseil de Dieu, les choses pour cette personne-là vont mal. Et c'est ce qui arrive aux États-Unis. Il dit, « Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. » Nous, il nous faut avoir confiance en Dieu, avoir confiance à sa parole écrite, avoir confiance à tout ce que Dieu nous enseigne pour que les choses aillent de mieux en mieux dans nos vies personnelles. Et ce sera le cas dans nos nations lorsque le Christ sera revenu. Le grand Dieu, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, veut qu'il y ait des leaders justes. Et il est en train de préparer ces leaders-là. Où? Ici, dans l'Église, dans la vraie Église de Dieu. Et dans nos camps d'été pour les jeunes et dans nos activités de l'Église, et ainsi de suite. Allons à Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Il nous faut bien voir tout ce que ça veut dire. Genèse 1, verset 26, après que Dieu décrit toute la création qu'il a effectuée. Puis au verset 26, il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme est fait comme Dieu, semblable à Dieu. » Les animaux ont seulement un instinct. Vous le savez, ils font les choses automatiquement, ils font leurs besoins n'importe où, sans y penser, tout simplement. Ils n'ont aucune règle, pour ainsi dire. Dieu a mis en eux un instinct. Vous voyez les oiseaux, par exemple, qui partent de l'Alaska et qui descendent loin au sud. chaque année. Et ils sont capables de le faire chaque année. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système de guidage intérieur, l'instinct que Dieu leur a donné. Le monde pense que ça s'est développé au cours de milliers d'années. Quoi? Absolument pas. C'est impossible que ça se soit développé pour arriver à cette chose-là. Ça n'a pas de sens. Mais le monde n'y réfléchit pas, ne le comprend pas. Dieu a mis l'instinct dans les animaux. L'homme n'a pas cette sorte d'instinct. Il nous faut, nous, apprendre toutes choses, et parfois par la souffrance, si nous ne sommes pas disposés d'abord à apprendre par la parole de Dieu. Mais Dieu a donné à l'homme un esprit, et seul l'homme a une imagination créative, comme Dieu. Les animaux n'ont pas une imagination créative comme nous avons. L'homme a créé les ordinateurs, la télévision, la radio, le téléphone. L'homme a été capable d'envoyer des hommes dans l'espace. Les animaux n'ont jamais été capables de faire ça et ne le feront jamais, quelle que soit la longueur de la supposée évolution. Seul l'homme a cette sorte de capacité que Dieu lui a donnée. Seul l'homme a le libre arbitre. Les animaux suivent simplement leur instinct. En ce qui nous concerne, Dieu nous teste parce que nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir de faire le bien et résister au mal, ou nous pouvons choisir de suivre notre nature humaine et de résister au bien. Nous avons cette capacité à cause du libre arbitre. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors, Dieu et le deuxième être de la famille de Dieu ont dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. » Dieu les bénit, verset 28, et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal, l'homme a reçu la domination, c'est-à-dire l'administration de la terre. Nous avons la capacité d'organiser, de prendre des décisions, de diriger, et Dieu veut qu'on apprenne à faire ça, qu'on développe de faire ça. Dieu a dit à Adam et Ève de prendre soin du jardin d'Éden sur le plan écologique pour continuer de garder la beauté du jardin et même de le développer. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que l'homme a fait. Dieu nous donne la possibilité d'apprendre ça, parce que plus tard aussi, Dieu va nous donner l'administration de la terre entière. Il va nous donner même d'administrer les anges, de diriger les anges. Plus tard, peut-être des planètes entières. Nous avons été créés par Dieu pour exercer l'administration, la direction, pour administrer le gouvernement. Nous sommes créés par Dieu dans ce but-là. Et nous sommes actuellement à l'entraînement pour apprendre à faire ça de bonne façon. Exode, chapitre 18. Exode, chapitre 18. On voit ici la première place dans la Bible où Dieu décrit la forme de gouvernement qu'il veut que nous appliquions. Exode, chapitre 18. Ça décrit comment Moïse, guidé par son beau-père, inspiré par Dieu, a appris à appliquer la bonne forme de gouvernement. Allons au verset 16. On se rappelle que Moïse recevait tous ceux qui avaient des conflits ou des différends ou des choses à régler. Les gens attendaient dans des longues lignes d'attente du matin au soir. Ce n'était pas logique de faire ça parce qu'il n'aurait pas pu continuer longtemps. Alors son beau-père, inspiré par Dieu, lui a mentionné quoi faire, la forme de gouvernement de Dieu. Verset 16, « Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, dit Moïse. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, et on voit que c'est Dieu qui lui a inspiré ça, « Ce que tu fais n'est pas bien. » David a fait la même chose. Salomon a fait la même chose. Josaphat a fait la même chose. Les leaders justes de Juda ont appliqué la même forme de gouvernement. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Écoute, je vais te dire quoi faire. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. » Verset 21, « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, pas par votation, pas par pression politique. » Le beau-père de Moïse lui dit, considère les faits et choisis parmi tout le peuple des hommes capables, des hommes qui ont les bonnes aptitudes, craignant Dieu. Voilà l'autre qualification que Dieu voulait voir dans ses leaders. des gens ayant de bonnes capacités et craignant Dieu, des hommes intègres, des gens qui ne mentent pas, qui ne diluent pas la vérité ou qui ne tordent pas les choses, ennemis de la cupidité, pas des gens qui essaient d'obtenir de l'argent ou des faveurs. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Et ce n'était pas chef de 10, mais c'était chef de 10 familles. Ce n'était pas chef de 1000, mais chef de 1000 familles. Ça voudrait dire que régner sur 1000, c'était régner ou administrer 5000 ou 8000 ou 9000 personnes, si on compte toutes les familles impliquées. Voilà le modèle de gouvernement que Dieu a donné depuis le tout début. Voyez-vous, Moïse et ses conseillers étaient la Cour suprême à ce moment-là. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Nos systèmes de justice manquent complètement. J'ai appris dernièrement, par exemple, qu'ils ont exécuté un homme pour meurtre, un meurtre terrible, qu'il avait commis quand? Il y a plusieurs années. Il y a 15 ans, cet homme-là a commis ce crime-là. Et finalement, la justice s'applique. Mais qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? C'est que les taxes des citoyens ont payé pour faire vivre cet homme-là et le faire attendre. On a dû payer des gardiens de prison et nourrir cette personne-là. Ça n'a pas de sens. Pendant ce temps-là, les avocats argumentaient et tout ça. Tout le système sera changé. Il faut que Dieu soit impliqué pour avoir la bonne forme de gouvernement et la bonne forme de justice. C'est comme ça que ce sera dans le monde de demain. Il n'y aura pas d'attente sans fin pour aller aux hôpitaux ou pour aller en justice. Attendant que des juges prennent des décisions qu'ils prennent souvent de façon erronée et parfois avec des délais incroyablement longs qui coûtent des fortunes. Et après ça, vous avez tout le processus des appels qui n'en finit plus. Dieu a donné la sorte de structure gouvernementale pour s'occuper de ces décisions-là, comment diriger. Et après ça, vous trouvez dans Deutéronome chapitre 1. Tout ce que je vous dis décrit la pensée de Dieu, sa mentalité. Deutéronome 1 et le verset 13. Dieu instruit encore Moïse à ce sujet. « Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. » Vous me répondîtes en disant, « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. » Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, comme ayant autorité dans vos tribus. Verset 16, « Je donnai dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différents de chacun. » Si nous voulons être les leaders du monde de demain, il nous faut être prudents, il nous faut apprendre à le faire maintenant dans nos propres vies. Nous devons prendre de bonnes décisions, rendre de bons jugements en rapport avec la loi de Dieu. Il nous faut obtenir tous les faits et soupeser les paix et suivre les instructions de Dieu. Ne pas aller de l'avant et faire nos propres choses comme nous pensons. Il faut être juste. Vous jugerez donc les différents chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes. Ne faites pas de faveur aux riches ou aux pauvres. Il faut que vous soyez juste envers tout le monde pour appliquer la loi. Il faut être impartial. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme. Ne craignez pas les aristocrates ou les grands ou les chefs d'armée, ça ne fait aucune différence. Si vous êtes le leader, si vous êtes le juge, vous devez être juste, car c'est Dieu qui rend la justice. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouvez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi. Alors, Moïse devait prendre la décision finale dans les cas spéciaux. Moïse prenait sûrement conseil, parce que dans plusieurs endroits dans la Bible, il est question de chercher conseil auprès de plusieurs conseillers. Allons maintenant à deux chroniques, s'il vous plaît. Le chapitre 19. Deux chroniques, chapitre 19, le verset 3. Il parle ici de Josaphat, un roi juste, mais qui a fait des erreurs. Il dit, « Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Josaphat s'était préparé, il avait préparé son cœur. Il avait étudié la partie des Écritures qu'ils avaient à l'époque. Il a médité là-dessus, il a prié et il a cherché Dieu. C'est ce que nous devons faire en ce moment si nous voulons devenir des rois et des administrateurs dans le royaume de Dieu. Comment prendre les bonnes décisions? Appliquez ceci dès maintenant dans votre vie actuelle. Pensez comment Dieu agirait à votre place. Qu'est-ce qu'Abraham ferait? Lorsque j'ai des décisions importantes à prendre, je me demande, qu'est-ce que le Christ ferait aujourd'hui? Et parfois, je me demande, qu'est-ce que M. Armstrong ferait ou quelque autre leader juste? J'ai appris à travers tout ça. Appliquez votre cœur à chercher Dieu. Verset 4. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Verset 5. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda et dans chaque ville. Et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel. Vous jugez pour le Dieu vivant, vous êtes responsable de ça. Soyez prudent à ce sujet-là. L'Éternel qui sera près de vous quand vous le prononcerez, vous jugez pour l'Éternel. » Dieu est avec ses ministres fidèles aujourd'hui. S'ils sont fidèles et s'ils continuent d'être fidèles. Dieu a dirigé les juges physiques de Juda de cette façon-là lorsqu'il le cherchait honnêtement. Alors, Dieu le sera encore davantage avec ses ministres dans l'œuvre aujourd'hui, avec ceux qui dirigent l'œuvre, qui cherchent Dieu de tout cœur et qui appliquent la loi, qui l'enseignent. Il faut développer la nature de Dieu. Wow! Et quand nous aurons cette nature totalement, nous allons changer le monde totalement. Le monde entier sera en paix. Tout sera changé quand les êtres humains vont découvrir Dieu et vont découvrir la voie de vie véritable de Dieu qui mène au bonheur. Dieu était avec eux dans les jugements. Verset 7. « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité ni égard pour l'apparence des personnes. » Aucune partialité. Ne pas prendre de pot de vin, ne pas être injuste. Chaque jour, on entend parler de gouverneurs, de chefs d'État, de chefs d'entreprise qui reçoivent des pots de vin ou qui font des compromis. Ils sont toujours prêts à faire des compromis pour avoir de l'argent. Ne faites pas cela. Vous devez agir avec justice, développer l'impartialité. Ne faites pas faveur envers vos amis, envers ceux que vous connaissez. Appliquez les lois telles que Dieu les a donné, ayez la bonne crainte de Dieu, comme la sermonnette l'a mentionné. On ne doit pas faire les choses à notre façon. Il faut avoir la crainte de Dieu, l'adoration du vrai Dieu. Il faut que je le fasse à la façon de Dieu, sinon tout va mal tourner en fin de compte. Je l'ai vécu moi-même quand j'ai été entêté ou j'ai fait certaines erreurs par entêtement, j'ai payé pour. C'est une loi absolument efficace. Allons à Apocalypse. Chapitre 2 maintenant, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 2, s'il vous plaît. Verset 26. Ça parle de nous ici. C'est le Christ qui parle et qui nous parle à nous. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Le Christ dit, « Je lui donnerai puissance sur les nations. Nous allons régner sur les nations. » C'est notre but. Nous sommes actuellement à l'entraînement pour cela. Nous allons remplacer ces diplomates et ces politiciens qui sont confus et qui amènent le chaos dans le monde. Les leaders en Syrie et dans les autres nations à travers le monde, tout ça résulte dans le chaos, dans la guerre, dans la violence, dans la méchanceté, dans la misère. Nous devons vaincre quoi? Notre nature humaine, notre vanité, notre convoitise. Nous devons vaincre notre entêtement. Nous devons vaincre le monde avec ses tentations. Et nous devons vaincre notre ennemi, Satan, le diable. Satan veut dire adversaire. Il nous faut le vaincre parce qu'il va s'essayer. Il essaie régulièrement de nous avoir, de nous déranger. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je vais aussi diriger avec une verge de fer. Et vous savez, il faudra le faire dans certains cas. Il faudra être ferme. Il faudra être juste, mais il faudra être ferme dans certains cas. Quand vous aurez affaire à des gens comme Saddam Hussein, des dictateurs comme Adolf Hitler ou Mussolini ou Joseph Staline, vous ne leur parlerez pas simplement avec douceur et avec gentillesse. Ils n'entendront pas raison à ce moment-là. Tout ce qu'ils comprennent, c'est la puissance. Je me rappelle que Joseph Staline, à un moment donné, on lui avait parlé du pape et il avait réagi en disant simplement, en le méprisant, en disant « Combien de divisions est-ce qu'il y a à son service, lui? » En parlant « Combien d'armées est-ce qu'il y a à son service? » Le pape n'avait pas d'armée. Bien sûr, il avait une grande influence dans le monde. Ce que ces dictateurs comprennent, c'est la puissance. Et ce qu'ils respectent, c'est une force plus forte que la leur. Et nous allons devoir l'appliquer à ce moment-là. Nous allons pouvoir faire descendre du feu du ciel. Nous allons pouvoir leur fermer la bouche. Et s'ils essaient de parler, on va pouvoir les empêcher de parler simplement. Ils vont reconnaître qu'il y a une puissance devant eux, une puissance qu'ils n'ont jamais rencontrée auparavant. C'est la seule chose qui amènera ces dictateurs à respecter une autorité. Apocalypse, chapitre 5, maintenant. Ça parle du chant des saints, ça parle des prières des saints, maintenant. Verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, c'est inspiré par Dieu, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. » Il parle du Christ ici, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le sang précieux du Christ est extrêmement important. Tous les êtres humains qui sont appelés peuvent aller au Père à cause du sacrifice de Christ s'ils se repentent. Et regardez, verset 10, « Tu as fait d'eux. » Pour lui, c'est comme si c'était fait. Dans Romains 4, verset 17, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pour lui, c'est comme si c'était fait, parce que c'est son plan. Et personne ne l'empêchera d'accomplir son plan. Dieu a fait de vous, frères et sœurs, ici et à travers le monde. Pour lui, dans son esprit, il vous a déjà fait roi et enseignant et sacrificateur, si vous êtes persévérant. Pour lui, c'est comme si c'est déjà fait. Le plan est établi et il va l'amener à terme. Si vous êtes fidèle, vous allez régner sur 5 villes, 10 villes ou sur une nation complète et plus tard peut-être sur une planète ou sur toute une galaxie, dans la famille de Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, des enseignants. Voilà votre appel. Vous n'êtes pas appelé pour passer l'éternité au ciel à jouer de la harpe. Absolument pas. Vous êtes appelé à régner sur la terre. Pensez-y. J'ai été appelé pour appliquer le gouvernement de Dieu. Il faut que j'apprenne maintenant les règles de ce gouvernement-là et que j'en vive. Il faut que je fasse confiance à Dieu, qu'il va nous diriger, avoir foi en Dieu, marcher avec lui pour faire partie de ce gouvernement-là. M. Armstrong disait, « Royaume veut dire gouvernement. » Et c'est ce que nous enseignons. C'est ce que le Christ enseignait. Le Christ est venu annoncer le royaume de Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, le gouvernement de Dieu qui sera établi sur la terre. Et ça s'en vient très vite maintenant sur nous, très rapidement. Dieu a fait de nous des rois et des enseignants. Et ils régneront sur la terre. Voilà notre appel. Ne prenons pas ça pour acquis. Allons à 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 maintenant. Verset 1. Paul écrit ceci. Et il veut que les Corinthiens comprennent le but de leur vie, ce qu'ils ont à faire, comment ils doivent, dès leur vie présente, appliquer les lois de Dieu. C'est très important et c'est vrai pour nous aussi. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? On n'est pas habitué à ça, je sais, mais c'est la réalité. Dieu entend ce qu'il dit ici. Lorsque vous avez un différend avec quelqu'un dans l'Église, il faut aller vers l'autorité de l'Église pour avoir l'aide nécessaire pour que les bonnes décisions soient prises. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Dieu nous a appelés. Nous sommes appelés à faire ça. Il y a deux raisons principales pour lesquelles Dieu a décidé de vous appeler maintenant et de m'appeler maintenant. Premièrement, nous sommes appelés pour être des exemples autour de nous et pour faire l'œuvre. Alors, nous devons faire l'œuvre. Nous avons cette occasion d'accomplir l'œuvre de Dieu maintenant. Mais deuxièmement, nous sommes également appelés pour devenir des rois et des enseignants. Nous sommes pour ça à l'entraînement maintenant. Et nous apprenons par les sermons, par les études bibliques, par les activités de l'Église, par les évangélistes, par les pasteurs, par les anciens, dans l'organisation de l'Église de Dieu. Plusieurs d'entre vous vous aidez de différentes façons, vous supportez l'œuvre, vous avez une attitude de service, vous, les membres, de gentillesse, vous le faites avec amour et vous le faites de la façon dont Dieu veut que vous le fassiez et Dieu vous donnera de plus grandes responsabilités, peut-être dans la vie actuelle, mais peut-être seulement dans le monde à venir. Peut-être vous régnerez sur 10 villes à ce moment-là. Certains de nos diacres ou diaconesses maintenant auront peut-être un poste plus important que des ministres ou que les dirigeants de l'Église aujourd'hui. Je le dis honnêtement, je vous ai déjà parlé de ça. Dr. Hay et moi et d'autres évangélistes parlions parfois de Bill Humberger, un diacre très efficace. On ne l'a jamais ordonné ancien ou ministre. Pas du tout. Pas parce qu'on ne l'aimait pas. On l'aimait, mais il n'avait pas ce qu'il fallait pour être ministre. Il n'avait pas une grande formation scolaire et il lui manquait beaucoup dedans. C'était un homme qui avait certaines limitations. Il avait une ferme avicole. Il ne savait pas trop comment se conduire en public ni comment s'habiller. Mais il est venu au collège et il a servi de façon extraordinaire. C'était un diacre merveilleux. Il y avait des gens parmi nous dans le ministère ayant des postes élevés qui ne donnaient pas le bon exemple. Et nous nous disions, Dr. Hay, moi-même et d'autres à ce moment-là, que Bill Humberger aura sans doute dans le monde à venir un poste plus élevé que nous. Pourquoi? Parce que cet homme-là était profondément converti et il servait de toutes les façons imaginables. Je sais qu'il sera dans le royaume. Certains des évangélistes qui étaient là à l'époque ne seront peut-être pas là, et d'autres qui seront dans le royaume auront peut-être des postes moins élevés que Bill Humberger. Vous regardez dans Luc 12, verset 48, « À celui à qui on donne beaucoup, beaucoup sera redemandé. » Dieu nous donne selon nos possibilités. Dieu regarde ce qu'on fait avec ce qu'il nous donne, avec ce qu'il nous a donné. Et c'est ça qu'il considère. Nous sommes appelés pour juger le monde. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Nous sommes appelés à faire ça. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres des jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et comme je vous ai expliqué, le mot grec ici, c'est diakrino, et différentes formes de ce mot ne veut pas toujours dire condamner. Vous regarderez dans les commentaires, ça ne veut pas toujours dire condamner, le mot juger. Ça veut dire, selon les contextes, juger veut dire administrer, veut dire diriger. Et dans ce verset ici, ça veut dire administrer ou diriger. Ne savez-vous pas que nous administrerons ou que nous dirigerons les anges? Aujourd'hui, ils sont nos serviteurs, nous ne les voyons pas. Mais dans le royaume, nous allons être au-dessus d'eux et ils seront à notre service pour accomplir ce que nous avons à accomplir. Ils feront partie de notre équipe pour administrer les villes ou les nations. Nous jugerons, nous administrerons, nous dirigerons les anges. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. C'est un reproche qu'il fait. Pourquoi est-ce que vous allez vers les juges du monde, vous, membres de l'Église? Pourquoi aller vers un juge charnel qui ne croit même pas en Dieu, qui peut être un alcoolique, qui peut tromper sa femme? Vous ne le connaissez pas, mais vous êtes prêt à lui faire confiance davantage que les anciens locaux dans l'Église ou les ministres dans l'Église. C'est sûr, vous les connaissez plus, eux, parce qu'ils sont plus proches de vous et vous connaissez un peu leurs faiblesses. Mais vous ne savez pas le juge que vous voulez aller voir, vous lui faites confiance, mais vous ne savez pas qui il est vraiment. Ne faites pas ça. Faites confiance au Christ. C'est lui qui dirige son Église, son gouvernement. C'est ce que nous devons faire. Certains vont dire, « Ah, M. Meredith, vous êtes en charge, c'est plus facile pour vous. » Non! Vous pouvez parler à Carl McNair. Non, il est mort. Parlez à Burt McNair. Il est dans United, on a été ensemble longtemps, il pourra vous le dire. Vous pourrez demander à d'autres personnes qui m'ont connu à l'époque. J'ai toujours été loyal envers M. Armstrong, même dans les temps extrêmement difficiles. C'était pas facile, vous savez, je le sais. Je l'ai fait. J'ai été loyal envers M. Armstrong quand j'ai été envoyé en exil. J'ai dit « Oui, monsieur, j'y vais ». Même si je savais que c'était injuste, je savais que Dieu allait s'occuper de la situation. Et il l'a fait chaque fois, chaque fois, chaque fois. Il ne m'a jamais, jamais laissé tomber. Il ne nous abandonnera jamais si nous sommes fidèles et si nous sommes loyaux. C'est lui qui est en charge. Un homme méchant durant la crise qu'a vécue l'Église universelle de Dieu lorsqu'elle a été placée sous tutelle, je connaissais ses problèmes. Ce n'était pas Garner Ted Armstrong, c'était quelqu'un d'autre. Et il a crié après moi. Il y a deux hommes seulement qui ont crié après moi. Ça n'a jamais été un des Armstrong. Il a crié après moi et il a dit, « Si tu dis à M. Armstrong mes problèmes et ce que je fais, je vais te briser, je vais t'écraser, je vais te détruire. » Je savais qu'il voulait le faire. Il a essayé à maintes reprises de me faire expulser de l'Église. Mais c'est lui qui a finalement été mis à l'extérieur de l'Église. Il est tombé dans la fosse qu'il avait creusée pour moi, comme il est écrit. Celui qui creuse une fosse pour détruire quelqu'un tombe lui-même dans la fosse. J'ai vu ça se produire à maintes reprises. Ne pensez pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dieu est vivant et Dieu agit. Le Christ est le chef vivant de l'Église. Il va guider ces choses et il va faire en sorte que ça sorte au mieux. Soyez-en certains. Je le dis à votre honte. Vous allez vers des juges charnels. Est-ce qu'il n'y a pas un homme sage parmi vous qui pourrait prononcer un jugement entre ses frères? Mais un frère plaide contre un frère, verset 6, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? c'est mieux de subir une injustice que d'aller vers les juges du monde. Il faut rester sous le gouvernement de Dieu. Et même si une injustice se poursuit, Dieu va voir à ce que tout ça se termine au mieux pour vous. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Je pourrais vous donner des noms, je pourrais vous décrire des circonstances que j'ai vécues à 6 ou 7 reprises, et ça a toujours tourné pour le mieux. Jésus-Christ est vivant. Il écoute ce sermon, il l'inspire. Il est en charge de l'Église et il s'occupe des siens. Et il fait en sorte que les choses se terminent au mieux. Tournons maintenant à Éphésiens chapitre 1. Il faut que le Christ soit réel pour vous, pour chacun d'entre vous. Étudiez ce livre pour ça. Nourrissez-vous-en. Sachez que Dieu est réel, que le Christ est réel et vous allez le voir agir dans vos vies. Alors, je prends au milieu d'une phrase de Paul ici, verset 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Ça veut dire tout poste, toute autorité qui peut être nommée, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds du Christ. Toutes choses ont été mises sous les pieds du Christ et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Le Christ est le chef des programmes d'été qu'on met de l'avant dans l'Église et tous les autres programmes. Il est en charge des finances, il est en charge de l'administration de l'Église, il est en charge du département de l'éditorial, du département d'envoi du courrier. Bien sûr, il nous arrive de faire des erreurs parfois, mais nous apprenons à partir de ces erreurs-là et le Christ nous guide. Nous croissons. À mesure que les années passent, nous apprenons et nous nous améliorons. L'œuvre continue de s'accomplir. Il est en charge. Il faut être certain de ça. Et il nous laisse apprendre des leçons, bien sûr. C'est lui qui nous guide. Il est en charge. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Nous sommes le corps choisi du Christ. Le Christ avait 2 mains, 2 pieds, 2 oreilles lorsqu'il était sur la terre. Il n'est plus sur la terre lui-même maintenant, directement comme ça, mais nous sommes ses mains, ses oreilles, sa bouche pour annoncer l'Évangile, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il faut comprendre ça. Vraiment, et l'apprécier. Le Christ est vivant. Allons un peu plus loin à Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience. Il ne faut pas être effronté, bien sûr, et dur. On est là simplement pour une courte période, et après ça, on est parti. Vous, les jeunes gens, réalisez ça. Autrefois, je me faisais du mauvais sang pour les gens âgés. Je disais, ah, cette valeur, ils sont vieux. Quand on est jeune, on pense comme ça. Mais écoutez, vous, les jeunes, vous pouvez mourir avant que je meure. J'ai réalisé ça lorsque mon ami Richard Armstrong est mort dans un terrible accident de voiture. Il avait 29 ans, et ça m'a frappé. J'ai réalisé que n'importe qui peut mourir n'importe quand. En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il veut que nous soyons unis dans l'Église. Dieu veut qu'il y ait unité dans son royaume. Satan ne sera pas là pour murmurer, pour détourner les gens. Dieu haït la division et Dieu haït ceux qui causent la division. Plusieurs proverbes nous le montrent. Nous devons nous efforcer de développer et de garder l'unité dans l'Église. Pas l'unité païenne, mais l'unité de l'Esprit de Dieu. Par le lien de la paix, il y a un seul corps. Il n'y a pas différents corps enseignant différentes choses, absolument pas. Et un seul Esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule sorte de croyance. Les gens disent, il y a la foi bouddhiste, la foi catholique, ou la foi de ceci, ou la foi de cela. Ce sont des fois différentes, mais il doit y avoir seulement une seule approche divine. Plusieurs branches de l'Église universelle ont beaucoup de différences. C'est Dieu de juger ça, mais ils ont tous des différences par rapport à la vérité de base. Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, et qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Dieu doit être en nous par son Saint-Esprit. Verset 11, ensuite, il dit ceci, en parlant du Christ, « Et il a donné les uns comme apôtres. » C'est le Christ qui a établi les postes dans l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. Comme j'ai dit, frères et sœurs, il y a des gens qui m'ont dit, peut-être 35 fois ou plus, vous êtes un apôtre. Non, je ne suis pas un apôtre. J'ai été ordonné par M. Armstrong en tant qu'évangéliste. Et si Dieu veut que je sois apôtre, alors il va me donner plus de pouvoir. Il va me donner de faire des miracles inhabituels, ce qu'il n'a pas fait. Alors, je fais ce que Dieu m'a ordonné de faire. Certains, même de mes anciens étudiants, se disent plus importants. Et se sont propulsés en se disant qu'ils sont des apôtres pour montrer comment ils sont grands. On ne doit pas faire ça. C'est Dieu qui a établi les postes. D'autre part, il faut respecter les postes que le Christ a établis dans son Église. M. Ames et Dr. Winnell, je pense que c'est M. Ames qui a dit à un des leaders d'un des groupes de l'ancienne Église universelle de Dieu qui était venu nous rencontrer, dans cette église-là, il ne croit pas aux postes qui sont donnés par Christ, comme on voit ici. Et M. Ames lui a dit, « Vous n'êtes pas considéré comme un évangéliste, pourtant vous avez été ordonné évangéliste dans l'Église universelle. Vous n'êtes pas considéré comme ça dans votre Église? » Et le monsieur a dit, « Non. » Et il a baissé les yeux, il n'avait pas de réponse. Il est resté dans cette église, mais il savait qu'il ne l'appellerait jamais évangéliste, même s'il avait été ordonné évangéliste par M. Armstrong. Il ne respecte pas les postes établis par Dieu. D'autres arrivent ensuite et se propulsent à des postes et s'autoproclament dans des postes. Pourquoi est-ce que Dieu a établi ces postes? Pour quelle raison? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Pour annoncer l'Évangile à travers le monde. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Dieu veut de l'unité. Dieu ne veut pas avoir des gens qui murmurent et qui disent, oh, « Allons voir ceux-ci, allons ailleurs, allons vérifier ailleurs ce qui est enseigné. Allons voir ceux qui font une autre œuvre ailleurs. » On a enseigné des gens, moi je l'ai fait pendant des années, ils sont partis et ils enseignent des choses différentes maintenant. Dieu déteste ces choses-là. Dieu dit au contraire qu'on doit en arriver à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Il nous faut refléter la nature du Christ dans toutes les facettes de notre vie, son caractère. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. C'est ce qui est arrivé tellement de fois au cours des années à plusieurs personnes. À tout bout de champ, il y a des gens qui apparaissent. C'est bizarre, c'est triste. Je peux vous dire sincèrement, devant Dieu et devant le Christ, dans les années 50 et 60, les mêmes arguments ont été apportés qu'on voit réapparaître à tout bout de champ. Par exemple, comment compter quand arrive le jour de la Pâque ou le jour de la Pentecôte? Comment faire ceci ou cela? Toutes sortes d'arguments qui reviennent à tout bout de champ. Par exemple, les noms sacrés. À tous les 5 ou 10 ans, certains arrivent et disent « Ah, oh, on devrait prononcer les noms de Dieu en hébreu pour que ça soit valable. » Ce n'est pas dans la Bible. On peut le prouver à tous ceux qui ont un esprit ouvert et qui veulent comprendre. Ces personnes argumentent et ne semblent pas comprendre. Et vous savez, quand ces personnes-là commencent à répandre ça dans l'Église, il y en a des gens qui se laissent avoir avec ça. Certains, par exemple, disent que il y a un Jésus noir et un Israël noir. Non, il n'y a pas un Jésus noir. Lorsque vous regardez l'histoire et que vous regardez la Bible, on sait que Jésus a existé, qu'il a été connu dans le monde entier et qu'il était juif. Ce n'était pas un mélange de différentes nationalités, il était un juif pur. Est-ce qu'il était meilleur à cause de ça? Non. Je ne suis pas juif, je n'essaie pas de monter en épingle les juifs, non pas. Mais le Christ n'était pas asiatique et il n'était pas noir, il était juif. C'était un descendant, on le voit dans les chronologies, il était un descendant du roi David, il était un juif. Des gens arrivent avec des idées bizarres qui ne sont pas bibliques. Ils prétendent connaître la Bible et ils sont complètement dans l'erreur. Ils n'ont aucun fondement. Ils argumentent et ils essaient de déranger des gens qui sont faibles. À tous les 5 ou 6 ans, les mêmes idées reviennent dans l'Église, comme si c'était une grande révélation qui leur était donnée. Ils se voient importants en faisant ça. Ils essaient d'avoir des disciples qui les suivent, mais ça ne donne jamais de bons fruits. Je me rappelle, dans le passé, il y a un monsieur au collège, Thomas Ham, qui a fait la même chose. Il y a 2-3 qui l'ont suivi. On n'a jamais entendu parler par la suite. Ils ont disparu de la scène. Plus tard, Herb Strader et Jerry Tider sont arrivés avec des idées bizarres aussi. Ils ont disparu et on n'en a plus entendu parler. D'autres ont suivi le même chemin et ont disparu de l'écran, pour ainsi dire. Ils ont littéralement disparu. Ils ne font aucune œuvre. Ils ne faisaient pas confiance au Christ pour diriger son Église. Ils ne faisaient pas confiance à ceux qui enseignaient exactement ce que le Christ enseignait. Certains disent, « Ah, un tel n'a pas raison, M. Meredith n'a pas raison d'apprêcher ça. » Bien sûr, nous faisons des erreurs. Nous ne prétendons pas être parfaits, mais nous sommes les descendants de l'Église de Dieu originelle et Dieu a guidé M. Armstrong plus que tout homme depuis des centaines d'années pour raviver la vérité et pour enseigner l'Église. Nous avons été ses étudiants. Je suis le seul des évangélistes originaux, les 5 premiers qui ont été ordonnés par lui, et j'ai toujours prêché la même chose. Vous pouvez demander à ceux qui sont au courant. Monica, par exemple, ma première secrétaire, Elvire Russell, devenue Mme Sedliakic, elle pourrait vous le dire. Elle était une de mes étudiantes dans les années 50-51. J'enseignais à ce moment-là la même chose que j'enseigne maintenant. Elle peut vous le dire. Demandez-lui. Mon beau-frère et ami Bert McNair pourrait vous dire la même chose. Dans les années 50, j'ai enseigné la même chose que M. Armstrong enseignait. M. Armstrong m'a enseigné ces choses-là. Je les ai enseignées. Parfois, j'ai ajouté certaines petites choses que Dieu m'a donné de comprendre, mais je n'ai jamais changé les choses de base, absolument pas. Dieu nous a donné le fondement dont nous avions besoin à travers M. Armstrong et nous bâtissons sur ce fondement solide. Ces fausses idées sont arrivées plusieurs fois dans le passé. Un Jésus noir ou un Israël noir ou en disant que la Pâque est le 15 de Nissan au lieu du 14. Les gens tirent les versets hors de leur contexte et essaient de tirer leurs propres conclusions. La question des noms sacrés, ça revient régulièrement et ces gens-là se présentent comme étant très importants. Ce sont des tromperies d'hommes et ce sont des pièges auxquels certains se laissent prendre. Il nous faut enseigner les choses de Dieu jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Il nous faut tous refléter le Christ dans ce que nous croyons, dans notre façon de voir, dans la façon d'accomplir le plan de Dieu. Et quand ces gens-là arrivent avec ces idées bizarres-là, dites-vous ceci, qui m'a enseigné la vérité au point de départ? Est-ce que ce sont ces gens-là qui arrivent avec des idées bizarres? Non, pas du tout. La plupart d'entre vous ici, dans la salle, et ceux qui allaient entendre ce message plus tard, vous avez appris à partir de M. Armstrong, ou vous avez appris de la part de ceux qui ont été enseignés par M. Armstrong, où vous avez appris de moi qui a été enseigné par lui. Monsieur Ames a appris par le même circuit et dans les mêmes circonstances également. Certains d'entre nous avons été enseignés directement par Monsieur Armstrong. Ces choses de base qui n'ont jamais changé. Qui enseigne et qui enseigne toute la vérité? Qui enseigne toute la vérité biblique? Deuxièmement, qui accomplit l'œuvre? Posez-vous ces questions-là. Si quelqu'un arrive avec ses idées bizarres, est-ce qu'ils accomplissent l'œuvre? Est-ce qu'ils ont une organisation dans le monde entier pour annoncer l'Évangile? Non, pas du tout. Qui enseigne aussi et pratique la bonne forme de gouvernement? Ces gens-là ne le font pas. Sinon, ils ne causeraient pas la division comme ils le font. Ils seraient sous l'autorité du gouvernement. Pensez à ces trois choses importantes. Qui prêche toute la vérité? Deuxièmement, qui fait vraiment l'œuvre de Dieu? Pas seulement en parler, mais qui annonce l'Évangile dans le monde entier. Et troisièmement, qui enseigne et met en pratique la bonne forme de gouvernement de Dieu qu'on voit dans la Bible? Ça, ça nous distingue de toutes les autres églises sur la terre aujourd'hui. Et même des groupes qui sont sortis de l'Église universelle de Dieu, parce que la plupart d'entre eux ne prêchent pas toute la vérité et ne mettent pas en pratique la bonne forme de gouvernement non plus. Il faut que vous sachiez ces choses-là. Vérifiez ces choses-là. Et ne vous laissez pas avoir par ces tromperies de gens qui causent des divisions. Il nous faut avoir cette conviction et être solide sur nos deux pieds. Dieu va nous tester là-dessus, vous savez. Il va vous mettre à l'épreuve. Est-ce que vous allez vous laisser séduire par les tromperies de l'homme qui vont essayer d'attirer des disciples à eux ou de vous amener à sortir de l'Église? Est-ce que vous serez loyal pour être un roi à jamais? Dieu vous teste maintenant. Est-ce que vous allez être loyal assez pour entrer dans le royaume et recevoir des postes de direction? Trois choses majeures à regarder. Qui prêche toute la vérité? Qui fait l'œuvre et qui applique le vrai gouvernement de Dieu. Ne soyez pas séduits par les tromperies des hommes. Et rappelez-vous, frères et sœurs, quand je suis arrivé dans l'Église, après ma graduation, Herman Hay, moi-même et d'autres, nous avions des réunions régulières avec M. Armstrong. Une discussion de ces choses-là. On avait un conseil des anciens. M. Armstrong s'y référait régulièrement. J'étais fidèle, loyal. Nous avons appliqué le principe biblique, et M. Armstrong le faisait, d'avoir plusieurs conseillers. Et nous avons prouvé hors de tout doute que ces fausses idées qui reviennent à tout bout de champ sont fausses, ne sont pas bibliques. Trouvez qui sont les vrais serviteurs de Dieu, qui accomplissent l'œuvre, qui appliquent la vraie forme de gouvernement. Et vous allez savoir où est la vraie Église. Tous ceux qui ont fait ça, tous ces dissidents-là, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils ont complètement disparu. En 1998, qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui nous ont poussés hors de l'Église universelle de Dieu? Du groupe de l'Église universelle de Dieu à l'époque qui avait quitté la bonne voie, ça s'est divisé en plusieurs groupes. Certains ont disparu, certains sont devenus des tout petits groupes. Ils ont été divisés et surdivisés. Ils n'avaient plus l'unité et ils ne font certainement plus l'œuvre de Dieu. Aucun de ces hommes-là ne font l'œuvre de Dieu maintenant. Ils sont, dans le fond, nulle part actuellement. M. Armstrong administrait en prenant conseil, mais il prenait les décisions. Et parfois, on avait des traditions qui étaient établies à partir de ces décisions-là. Par exemple, le fait de ne pas fumer. On ne trouve pas ça dans la Bible. Nulle part, c'est écrit « ne fumez pas ». Mais M. Armstrong a analysé ça et a vu le principe. Le fait qu'on ne doit pas faire dommage à nos corps, endommager nos corps. Et M. Armstrong a pris une décision à ce moment-là, après nous avoir parlé à plusieurs d'entre nous, à ses conseillers. Et Par exemple, une autre chose qui ne devait pas être faite, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'études bibliques régulières dans la maison de quelqu'un sans qu'il y ait un ministre présent. Il faut qu'il y ait un ministre fidèle qui soit présent. C'est ce que M. Armstrong a décidé. Est-ce qu'on essayait ou est-ce qu'on essaie de contrôler l'esprit des gens? Pas du tout. Les gens peuvent se visiter et discuter de la Bible. Mais lorsque quelqu'un fait une étude biblique régulière chez eux et que des gens arrivent avec des idées étranges et essaient de diviser les gens avec ces choses-là, ça, c'est mauvais et ça ne doit pas être toléré. Lorsque vous voyez ça arriver, fuyez ça. N'allez pas à ces choses-là. Si vous êtes loyal, vous allez aller voir votre ministre, soit M. League ou soit M. McNair ou les autres ministres à travers le monde. Mais n'ayez pas d'études bibliques secrètes dans des domiciles lorsque un ministre fidèle de Dieu n'est pas présent. Lorsque c'est arrivé, chaque fois, ça a mal tourné. J'ai vu ça arriver à diverses reprises. C'est pour vous protéger qu'on dit ça et que la décision a été prise par M. Armstrong. Si vous voyez ça se produire, parlez à votre ministre. Allez vers le ministère pour les mettre au courant. N'avez-vous pas confiance que Dieu va diriger votre ministre? J'aimerais ça, aller à votre étude biblique, mais ne me demandez pas parce que je n'aurai pas l'énergie, je ne peux pas aller à toutes les études bibliques. Il faut que vous ayez les bonnes informations et que vous fassiez les choses de bonne façon pour ne pas être entraîné. Allons à Proverbes chapitre 11, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 11, et nous allons lire le verset 14. Dieu dit ceci, « Quand la prudence fait défaut, ou quand le conseil fait défaut, quand il n'y a pas de conseil, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Il faut aller chercher plusieurs conseils, 3 ou 4 conseils lorsque vous avez une grande décision à prendre. Si vous avez des questions bibliques, allez voir votre ministre et parlez-en, soumettez ces choses-là. Ça nous fera plaisir de répondre. Je ne peux pas nommer le nom de tous les ministres, bien sûr. Et on ne peut pas vous conseiller tous personnellement, nous ici au quartier général, mais allez voir vos ministres locaux lorsque vous avez des questions bibliques et allez chercher conseils, comme par exemple pour vous marier. Je me rappelle au collège ambassadeur, il y a des jeunes qui voulaient se marier et qui essayaient de faire ce qu'on appelait du magasinage de ministres. Ils essayaient de chercher un ministre parmi tous les ministres qui étaient là, qui allait penser un peu plus comme eux pour faire ce qu'ils voulaient faire. Ça, ce n'est pas d'avoir vraiment la multitude de bons conseils. Soyez honnêtes. Cherchez l'opinion ou le conseil de plusieurs personnes, des gens qui sont neutres et qui vont vous donner un jugement basé sur les lois de Dieu. Proverbes chapitre 12 maintenant, s'il vous plaît. 12 et le verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie. La bonne traduction, c'est le juste doit choisir ses amis avec soin. Parce que la voix des méchants les égare. Voyez-vous, essayez pas de vous associer, par exemple, avec quelqu'un qui fume pour vous donner raison de fumer. Est-ce que c'est comme ça que vous allez vaincre et que vous allez croître? Non, choisissez vos amis. Restez proches. Faites amis avec quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui s'efforce de vivre selon Christ. Ayez en tant qu'ami quelqu'un qui craint Dieu. Choisissez vos amis avec soin. Parce que la voix des méchants les égare, et c'est une chose très importante. Soyez prudents concernant qui vous choisissez pour être vos amis réguliers. Si vous voulez devenir leader dans le monde de demain, Dieu ne veut pas vous voir avoir des doutes, être confus et être déloyal. Il faut que vous prouviez à Dieu que vous êtes sage, que vous êtes loyal et que vous voulez développer de faire des décisions impartiales. non pas des décisions basées sur des considérations personnelles. Proverbe 13 et le verset 20 maintenant. Un de mes versets préférés dans le livre des Proverbes. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal, c'est-à-dire sera détruit dans l'original. Certains jeunes d'entre vous, vous vous tenez avec d'autres qui fument ou avec d'autres qui boivent trop. C'est fou, c'est insensé. Ne faites pas ça. Éloignez-vous de ces gens-là. Tenez-vous avec des gens qui sont propres, qui font les choses de Dieu. Ça va vous aider à rester pur et à faire les choses comme il faut. Celui qui fréquente les sages devient sage. Chaque mardi ou mercredi, j'ai un dîner avec M. Wakefield, Dr. Winnell, M. Ames et M. Hernandez, M. Sisilka, M. Rod McNabb, mon fils Jim, M. League, qui alterne avec M. Heyman aussi. Nous sommes 9 personnes autour d'une table et nous mangeons ensemble et je prends conseil auprès d'eux. Alors, je les rencontre régulièrement, M. League, M. Rod McNair, et on parle de l'œuvre, M. Sisilka, Dr. Winnell, et ainsi de suite. Je cherche une multitude de conseils auprès de ces gens qui sont sages. Ils sont engagés, ils sont fidèles, ils craignent Dieu, et ce, depuis des années. Je l'apprécie, ce sont mes amis, parce que nous avons la même mentalité. Nous avons la même pensée, le même but. Nous nous efforçons. Nous ne sommes pas parfaits, bien sûr. Nous nous efforçons de tout notre être d'avoir la mentalité de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Nous y travaillons. Allons maintenant à Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Paul parle aux Éphésiens charnels ici, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Verset 2 maintenant, « Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Satan ne se fatigue jamais, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il travaille dans les fils de la rébellion. Il veut essayer de vous décourager, de vous détourner, de vous diviser. Son truc, c'est de diviser. Les vrais leaders ne chancelleront pas, ils ne vacilleront pas, ils n'hésiteront pas. J'ai vu ça dans l'Église universelle de Dieu. Des gens qui vacillaient, qui étaient chancelants, qui hésitaient. Qu'est-ce qui leur arrivait? C'est qu'à ce moment-là, c'est les mêmes gens qui sont venus par en arrière et qui ont frappé M. Armstrong dans le dos. Ils sont devenus de plus en plus faibles. Ils ont été guidés par Satan. Dieu ne pourra pas vous utiliser comme leader dans le royaume si vous n'êtes pas loyal. Il faut commencer à le pratiquer maintenant. Si vous êtes sincère, vous travaillez à obéir à Dieu. Si vous avez des questions de fond majeures, allez chercher conseil. Parlez-nous. Nous ne vous en voudrons pas si vous avez une question. Mais on ne veut pas que dans l'Église, des gens se promènent et dérangent des gens, qu'ils murmurent, qu'ils critiquent l'Église, qu'ils critiquent le ministère ou qu'ils apportent des doctrines bizarres. Les mêmes doctrines, d'ailleurs, qui ont été amenées depuis les années 50 à chaque 5 ou 8 ans ou 10 ans. La même forme de corruption, la même forme de tromperie. Et il y a des gens, chaque fois, qui sont tombés à cause de ça. Je vous avertis de ça pour que vous soyez sur vos gardes. Ne faites pas ça. Ayez la crainte et le respect de Dieu. Ne laissez pas Satan vous déranger. Allons à Éphésiens chapitre 6 maintenant. Éphésiens chapitre 6 et le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan a des ruses de toutes sortes. Il a toutes sortes de stratégies, surtout diviser pour conquérir, diviser pour conquérir. Il veut ralentir cette œuvre en divisant et en divisant. et en amenant les gens à être désillusionnés ou à s'attacher à des petites choses, à des détails, puis à en faire des montagnes. Si vous voulez devenir un leader dans l'Église, dans l'œuvre, et si vous voulez être dans le royaume de Dieu, ne laissez pas Satan, avec ses ruses, vous avoir, vous conquérir. Résistez-lui. Allons à Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, vers la fin du Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 13, verset 7. Dieu nous dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Qui sont ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu? Pensez-y. Grâce à qui avez-vous connu la vérité? M. Armstrong l'a fait longtemps et depuis 21 ans, c'est moi qui le fais. Plus tard, si je ne suis pas là, M. Ames ou Dr. Winnell ou d'autres vont continuer à le faire. C'est nous qui avons donné les sermons, qui avons écrit les brochures, qui avons publié. Est-ce que nous avons commis l'adultère? Est-ce que nous avons été des ivrognes? Non, absolument pas. Nous sommes une petite église, vous pouvez le vérifier, ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons tenté d'être les meilleurs exemples possibles. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Suivez l'exemple de Christ. Nous suivons son exemple. Verset 17, regardez ce qui est écrit. Obéissez à vos conducteurs. C'est un commandement de Dieu. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, il dit, obéissez à vos conducteurs, suivez leurs instructions, comme eux suivent le Christ. Mais n'essayez pas de critiquer ce qu'ils font, n'essayez pas de toujours les analyser, et n'essayez pas de réinventer la roue. Ce n'est pas une bonne attitude envers le leadership que le Christ a établi dans son Église. Allons dans Daniel maintenant, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Dans l'Ancien Testament, un passage très connu, verset 1, Daniel 12. Ça parle du temps de la fin, comme on voit à Daniel 11, verset 40, au temps de la fin. Daniel 12, verset 1. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans le livre, seront sauvés. Nous serons délivrés si Dieu voit que nous sommes loyaux, si nous développons l'unité de la famille de Dieu, si nous sommes loyaux, si nous accomplissons les choses comme il veut que nous les accomplissions. Nous serons délivrés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. À quel moment? C'est le moment de la résurrection, au moment du retour de Christ. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et je sais que vous ne voulez pas cette dernière catégorie. Ceux qui auront été intelligents, est-ce que nous sommes intelligents? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, à plusieurs, c'est ce que nous nous efforçons de faire. Combien de ces dissidents ont amené les gens à la vérité? Absolument pas. Ils ont dérangé les gens, ils ont causé des problèmes, ils ont accusé le leadership et ils ont détourné de la vérité et de l'Église beaucoup de personnes. Nous supportons cette œuvre par nos prières, nos dîmes, nos offrandes, nos exemples, nos études, nos jeûnes. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Soyons cette sorte de leader que Dieu veut voir développer maintenant. Préparons-nous, ayons le courage qu'il faut. Efforçons-nous d'être cette sorte de leader pour être dans le royaume de Dieu, dans son gouvernement, pour toujours être les bons dirigeants sur la face de la terre lorsque le Christ reviendra. Dieu nous prépare maintenant.